Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, c'est une nouvelle série que je vous invite à suivre cette semaine. Je reçois pour intervenant, pour témoin, Père Henri Jasmier, recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel et prêtre exorciste. Bonjour Père Henri Jasmier.
Bonjour.
Presque envie de dire bonjour Père Riton. Vous avez un surnom, c'est toute une histoire.
On m'a toujours appelé Père Riton. Riton et on a ajouté Père quand j'étais prêtre. Voilà.
Une histoire avec ce surnom. Nom de Riton,
Père Henri. On m'a toujours appelé comme ça, dans l'orphelinat où j'étais, et puis après, ben, ça a continué, c'était toujours comme ça.
Alors,
ça n'a pas changé.
Dans ces premières minutes de rencontre avec vous, vous avez aussi exercé ce beau métier d'éducateur pendant plus de 35 ans, en prison.
En prison.
À la prison Fleury-Mérogis. Une expérience en quelques minutes à partager pour ceux et celles qui vous découvrent, Père Jasmier, recteur au Mont-Saint-Michel.
Mais oui, maintenant. Oui, 35 ans dans une prison, la plus grande de France et d'Europe. Alors, forcément, ça me marque beaucoup parce que c'est des milliers de gens que j'ai rencontrés qui se sont assis en face de moi et ça m'a beaucoup impressionné. Et pendant 10 ans, j'ai reçu tous ceux qui rentraient à la prison de Fleury-Mérogis, donc à peu près une quarantaine de personnes par jour. Donc on multiplie par 10 ans, ça fait une masse assez importante de gens qui se sont assis devant moi. Et souvent j'y repense, maintenant dans le sanctuaire du Mont-Saint-Michel, quand je suis assis dans le fond de l'église, ça me revient comme si... Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Comment j'ai accueilli? Ça, c'était la grande question. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prêtre. À ce moment-là, j'étais un bon professionnel, voilà. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais... Voici. Mais, bien sûr, avec un regard quand même très, très personnel, vu mon histoire sur ceux qui rentraient en prison.
Vous voulez revenir deux minutes un peu sur votre histoire personnelle?
Oui, moi, j'ai été élevé dans un orphelinat dès l'âge de 2 ans, et donc... Tous mes copains, nous étions nombreux, plus de 150, c'était comme mes frères. Et donc, nous partagions nos joies et nos peines sans savoir ce que c'était, puisque nous étions les uns sur les autres du 1er janvier au 31 décembre. Et en même temps, il y a une fraternité qui se lie, qui est indescriptible d'ailleurs. Ce qui fait que quand un copain partait, c'était comme un frère qui partait. Donc très très vite, personnellement, moi j'ai été assez... touché par la souffrance, parce que un copain qui partait de l'orphelinat, on ne savait pas où il allait, il disparaissait. Mais quand on a partagé la vie pendant 2-3 ans, journellement avec quelqu'un, ben on jouait ensemble, on était punis ensemble, on faisait le ménage ensemble, on faisait toute la vie comme dans une famille, mais une vie collective, c'est sûr que ça marque et j'ai des souvenirs assez... des pleurs d'avoir pleuré, d'avoir perdu tel copain, par exemple. Ça, je me rappelle très, très bien. Oui. Donc, c'est des choses qui marquent, qui imprègnent notre vie, sans s'en rendre compte. C'est inconscient. Parce que je pense que quand on est enfant, on est comme une éponge, on prend tout, et puis on décrypte plus tard, quand on arrive à 12 ans, on commence à décrypter, et là, c'est très important d'être accompagné pour décrypter, parce que si on reste que dans le ressenti de ce qu'on a vécu, on est souvent... C'est compliqué, je trouve. Voilà.
Et vous avez eu les bonnes personnes ou la bonne personne à l'âge de 12 ans, Père Henri?
Moi, j'ai eu de la chance, oui. Je dois dire, parce que j'ai rencontré sur ma route des gens extraordinaires. Oui. Je pense entre autres à un directeur de foyer qui était un prêtre. Et j'avais fait quand même quantité de bêtises et j'avais besoin de lui parler. Ça m'a beaucoup appris après pour la prison. On a besoin de dire ce qui est au fond de nous-mêmes. On ne sait pas pourquoi. On a envie de s'exprimer, on a envie de dire à quelqu'un. Et je lui disais tout ce que je faisais. Et il y avait des fois, c'était pas très beau ce que j'avais fait. Mais ce qui m'a marqué à vie, c'est qu'il ne m'a jamais dit que je faisais mal. Il m'a simplement posé la question, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça? Et je donnais l'explication, mais je fais ça parce que je veux ça, je voulais trouver ça. Mais est-ce que tu l'as trouvé? Et non, je ne l'ai pas trouvé. Mais si tu le cherches, si tu as envie, est-ce que tu penses qu'il n'y a que cette façon que tu as fait ou tu t'en veux d'avoir pris ce chemin? Alors je disais, ben non, il doit y en avoir d'autres. Alors la grande question, pourquoi tu as pris ce chemin et pas les autres? Ça a toujours été quelque chose d'important parce que ça permet de regarder sa vie d'une façon positive, de ne pas l'enfermer simplement dans un ressenti de souffrance qui est normal parce que notre vie, c'est un mouvement entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre la peine et la joie, voilà. Et on peut s'attarder sur un aspect de sa vie et ne plus créer l'autre, parce que, bien sûr, on est pris. Et cette image positive de mon échec m'a beaucoup aidé. Ouais, simplement, alors bien sûr, sans jugement et sans graduation de la bêtise. Et ça, je trouve que c'est important. C'est pas à nous de graduer nos erreurs. C'est à Dieu. C'est pas à nous.
Père Riton,
oui.
Et le surnom, on va dire
Père, oui, Père Riton.
Alors, Père
ça Riton, va mieux. Oui.
Allez, Père Riton, on reste avec vous et ce Père Riton jusqu'à la fin de la semaine, sans oublier aussi, on fera des va-et-vient entre finalement l'expérience aussi de ces hommes rencontrés, regardés et écoutés en prison, avec l'expérience au fond d'un cœur qui écoute et d'un regard qui regarde en profondeur l'autre.
Ah, je crois que c'est...
Est-ce que ça se joue là, le moment ultime rencontre
toujours,
pour que le
toujours.
Cœur s'ouvre. Un regard.
Oui. Moi, en prison, je faisais ça. Je m'assoyais et je regardais toujours le détenu, simplement. Et je me rappelle une fois, un jeune me racontait son histoire qui était terrible, terrible, parce qu'il y a des histoires terribles en prison. Et je ne sais pas pourquoi les larmes sont venues, parce que je ne sais pas pourquoi moi j'ai pleuré facilement, beaucoup. J'ai beaucoup pleuré, ça m'a permis de faire sortir sûrement beaucoup de souffrance. Et je le vois en face, il dit « Monsieur Henri, tu pleures ?» Alors j'étais gêné, parce qu'un éducateur quand même, je ne verserai pas des larmes, mais il a bien vu que mes yeux étaient... Et je lui dis « Non, je suis ému de ce que tu me dis. » Et c'est lui qui s'est effondré en larmes. Ça m'a beaucoup... Et moi, je retenais mes yeux pour ne pas faire couler de larmes. Mais il a bien vu, peut-être, il a vu le brillant, parce que quand on voit des yeux qui se remplissent de larmes, il y a un petit changement quand même. Et là, j'étais moi-même surpris. J'étais surpris, oui.
Alors, il y a eu ce métier d'éducateur, mais il y a eu... Alors, racontez-nous en 3 minutes, si vous le pouvez, comment s'est passé l'appel vers le sacerdoce, Père Riton.
Ah ben, moi, j'y ai pensé très jeune. J'y ai pensé très jeune, parce que je pense que... Quand on est jeune, on sent, moi je crois jusqu'à 10 ans, on sait ce qu'on fera de sa vie intuitivement. On le sent. Mais on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas le montrer. C'est ce qui fait qu'on change d'ailleurs. Je serai médecin, je serai pompier, je serai gendarme. Mais ça change un enfant. C'est parce qu'intuitivement, il passe par toutes ces phases. Et moi j'avais pensé être prêtre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux choses, je pense. Je voulais rester avec mes copains. Je pensais qu'un prêtre, c'était... Et je n'aimais pas beaucoup l'aumônier de l'orphelinat. Ça aussi, c'était pas un modèle de prêtre. Moi, je n'aimais pas... J'avais aucun contact avec lui. J'étais obligé d'aller le voir, donc j'allais le voir. Mais... Et puis, la deuxième chose qui me paraît importante, c'est qu'on sent qu'est-ce qui pourrait combler une vie. Et moi, dans l'absence de famille, j'ai découvert qu'il y avait Dieu, parce qu'un jour... Dans l'orphelinat, alors qu'on allait beaucoup à la chapelle. J'ai eu cette phrase qui m'a touché, c'était Isaïe 49. Une femme oublie-t-elle son enfant ? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles ? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais, dit Yahvé. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment précis, j'avais 10 ans, j'ai eu la certitude que je ne serais jamais abandonné par Dieu. Et donc... instinctivement, la question du don est venue. C'est bizarre. Comme à mes copains, mais comme à Dieu. Après, ça a été plus compliqué. Parce qu'après, j'ai voulu fonder une famille, parce que j'ai voulu... Et j'ai failli, vous voyez, presque faire ma vie avec une élève infirmière, parce que j'ai fait des études d'infirmier aussi, à Cochin. Et ça, c'est parfait. Et puis... L'idée de donner ma vie à Dieu est revenue par le travail à la prison. Vraiment, quand je suis rentré en prison dans les années 75, 76, à ce moment-là, cette question est revenue différemment que je l'avais ressentie. Voilà.
Alors, le travail en prison, la mission en prison, le travail de l'éducateur, cet éducateur qui deviendra prêtre au cœur de la prison, au fond. Et je vous propose, Père Henri Jasmier, surnommé, on peut vous appeler, permettez, Père Riton. Je vous propose de vous retrouver dans Des Clés pour Vivre dès demain à la même heure. Et merci pour cette rencontre du jour. À demain.